La nouvelle Suzuki Swift Hybrid. C'est un design inspirant, une technologie de pointe et une conduite exaltante à partir de 199 euros par mois. Nouvelle Suzuki Swift Hybrid. Place à l'exaltation.
Portes ouvertes ce week-end. Swift Hybrid Avantage. Location longue durée 37 mois, 30 000 km. Premier loyer de 4 000 euros. Entretien inclus, valable jusqu'au 30 juin 2024. Si accord Arval Service Lease. Détails sur Suzuki.fr.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Moi, je vous punirai des enfants pour pas trop de stage.
Bonjour à tous, c'est parti pour les GG, pour les grandes gueules. Vous savez que nous sommes ensemble jusqu'à midi, nous sommes ensemble au 32-16 pour discuter, pour débattre. Bonjour Olivier.
Salut Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous.
Est-ce qu'on doit durcir les conditions d'indemnisation du chômage? La galère pour les élèves de seconde pour trouver un stage? Est-ce qu'en fonction de votre look, on peut deviner si vous êtes de gauche ou si vous êtes de droite? Voilà quelques-uns des sujets que l'on va évoquer aujourd'hui avec Frédéric Farah, professeur d'économie. Bonjour.
Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver comme d'habitude.
Nous sommes avec Étienne Liebig, éducateur en Seine-Saint-Denis. Et puis nous sommes avec Barbara Lefebvre, professeure d'histoire-géographie. Bonjour.
Bonjour à tous.
Mais notre premier sujet de discussion va nous amener à parler de l'homme le plus recherché de France aujourd'hui, l'ennemi public numéro 1, monsieur Mohamed Amra.
RMC, les grandes gueules.
Parce que ce sont les infos de BFM TV concernant ses conditions de détention. Et alors, Mohamed Amra, en cellule, il était comme au bureau, il gérait son business.
Oui, et contrairement à ce qu'on nous a raconté au début en disant « c'est pas un gros bonnet, c'est une petite frappe, pourquoi l'ont-ils fait évader ?» Ben, on s'aperçoit, selon les informations de BFM TV, et en fonction des conditions de détention de l'homme qui est aujourd'hui le plus recherché de France, que Mohamed Amra, c'était un gros poisson, c'était quelqu'un qui était à la tête d'un clan et qui gérait ses affaires depuis sa cellule. Pourquoi il gérait ses affaires depuis sa cellule? Parce que déjà, il avait beaucoup de portables sur lui. Il se faisait livrer régulièrement par des jeteurs, les gens qui jettent par-dessus le mur, des portables, des cartes SIM et aussi de la drogue pour sa propre consommation. Il disposait d'une chicha d'ailleurs pour égayer ses soirées d'été. Le tout visiblement permis par des surveillants de prison. Des portables qui lui servaient aussi à surfer sur des sites de rencontres, nous dit-on, et à appeler ses contacts, donc en utilisant les messageries cryptées telles que Signal. Il pouvait ainsi solliciter ses subordonnés pour donner des ordres sur l'organisation de son trafic de drogue, la gestion des points de deal, désigné également sous le vocable de terrain dans le jargon des trafiquants. Donc quand c'était terrain, c'était en fait point de deal. Toujours abrité derrière les murs de sa prison, il organisait aussi des carottages, des vols de transport de drogue au préjudice d'autres équipes de trafiquants. Il est soupçonné d'avoir aussi commandité l'enlèvement d'un homme assorti d'une demande de rançon en Seine-Maritime. Tout ça depuis sa propre cellule. On apprend également que sa sœur était sa complice. D'ailleurs, parfois, c'est sa petite copine qui se faisait passer pour sa sœur au parloir.
Grâce à la carte d'identité
voilà,
de sa sœur.
Il suffisait simplement d'avoir une carte d'identité falsifiée. Et donc, la petite copine se retrouve au parloir avec son petit copain. On pensait que c'était sa sœur. Alors, ce qui est le plus surprenant, c'est qu'on nous explique également qu'il était sur écoute. C'est-à-dire que les forces de l'ordre écoutaient Amra parce que justement, il avait sans doute des choses à apprendre. Alors, il y a un vrai questionnement et on n'a pas la réponse. Et comment ça se fait que quelqu'un qui était sous étroite surveillance, finalement, a pu s'échapper, a pu s'évader, a pu organiser son évasion? Là, il y a un truc qui ne va pas et on n'a pas la réponse. Mais c'est vrai que ces conditions de détention surprennent.
Qu'est-ce que vous en pensez, Barbara?
D'autant qu'il y a 6 mois, il cherchait à se procurer des armes de guerre,
oui,
notamment des fusils, tels que les fusils d'assaut qui ont servi à l'exfiltrer de la camionnette. Bah écoutez, moi je vais
6 000 euros pièce, le fusil d'assaut.
Oui, bah écoutez, la description de sur le ton badin, effectivement, que l'on peut faire, parce que on se dit que c'est presque un film comique, on se dit que c'est un film d'Audiard même. D'accord. Sauf que Momo la mouche,
plutôt la septième compagnie.
Ouais, Momo la mouche, il est pas tellement drôle. Et je crains surtout que des Momo, il y en ait beaucoup au moment où on se parle. Il y en a peut-être d'ailleurs qui nous écoutent dans leur cellule. C'est-à-dire, je crois pas qu'ils écoutent les grandes gueules. Vous me direz, ils sont occupés justement à passer leur coup de fil pour continuer leurs actions criminelles. Moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est que nos services pénitentiaires, les petits fonctionnaires des services pénitentiaires, ça fait 25 ans. Ils le disent, ça ne va pas dans les prisons. Nos prisons se dégradent, on n'a pas les moyens de travailler, on n'a pas le personnel pour gérer l'ensemble des délinquants que nous avons, qui sont de plus en plus dangereux, qui multiplie en plus les connexions criminelles, parce que, excusez-moi, ça fait de la drogue, mais en même temps, ça fait des armes. Et les armes, parfois, vous les retrouvez sur des attentats. Et je suis désolée, rappelez-vous, le Bataclan, les Kouachi, les Koulibaly, c'était aussi avant des délinquants. Et ensuite, vous les retrouvez sur des attentats djihadistes. Donc, moi, je crois vraiment que là, on a l'explosion d'une réalité que depuis 25 ans, les services pénitentiaires, les gens de terrain, comme d'habitude, les petits fonctionnaires de terrain, criaient dans le désert depuis 25 ans. Donc là, ce qu'on nous raconte, je crains que ce ne soit le quotidien et la banalité de ce qui se passe dans nos prisons. Et donc ce personnage s'avère être finalement, je ne sais même pas si c'est un gros bonnet, je vais te dire, je crois
En tout cas, c'était
le pire,
un chef
c'est
de
qu'il
clan.
Y en a beaucoup des comme ça.
Oui, peut-être.
La famille m'a l'air encore pas piquée des hannetons. Hein. Je rappelle que la maman... Ah là là, elle comprenait rien. Hein. Son fils, aucun problème. Alors qu'on apprend maintenant que depuis 11 ans, c'est une terreur et qu'il, excusez-moi du terme, il emmerdait déjà le monde à l'école. Ben non, elle avait rien vu. La sœur, pareil. La petite copine, l'autre qui va sur des sites de rencontres. Moi, je vais vous dire, c'est effrayant le monde et l'univers mental dans lequel baignent ces gens. C'est une autre société, c'est un autre monde et on a sacrément du souci à se faire.
Alors c'était aussi, il avait un nom de surnom parce qu'on a oui. beaucoup parlé de la mouche, mais aussi la chemou, Moa, Momo, Moumouche. Oui, encore Yanis, c'est quand il était plus jeune, son père l'appelait Schtroumpf.
Ouais, bien sûr.
Fred,
Je crois que c'est l'échec d'une institution en fait. C'est-à-dire c'est ça qu'en fait que l'on voit. C'est-à-dire que mettre les gens en prison, on pense que ça règle le problème. Non, ça ne le règle pas, ça l'amplifie. Donc on peut continuer à mettre des tas de gens en prison, mais ça ne va pas régler le problème, puisque visiblement la prison n'est que l'annexe de l'activité extérieure, donc c'est un prolongement, donc croire que la prison, ça règle, ça réinsère, ou je sais pas quoi, enfin on peut en discuter, mais en tout cas ce n'est pas ça, et puis même on peut augmenter les peines de prison, les laisser plus longtemps encore, c'est pas ça non plus la réponse, puisque tout continue, et c'est l'échec d'une institution, c'est-à-dire que, de toutes les façons, l'institution pénitentiaire n'a ni les moyens, n'a pas les moyens de travailler, avec des personnels, bon, qui sont à bout de souffle, donc je crois que on assiste à quelque chose qui est assez banal et qui est à l'œuvre depuis longtemps, c'est-à-dire la criminalisation aussi de la prison elle-même.
Sauf que banal, mais il y a eu des morts d'hommes.
Enfin, oui,
je
voilà.
Je rappelle quand même que des gens sont morts. Et il y a parallèlement cette semaine dans Paris Match le témoignage d'une des veuves, hein, la femme d'Arnaud Garcia qui est enceinte.
Oui.
Et donc en fait. Le fait qu'on laisse cet homme pouvoir s'équiper notamment d'armes automatiques aboutit aussi à la mort de deux hommes.
Oui, mais moi le plus triste, et je pense juste un dernier mot, c'est qu'une fois que on le retrouvera, on a retrouvé d'autres, on le retrouvera à un moment donné ou à un autre avec ses complices, tout le monde dira plus jamais ça, plus jamais ça, c'est promis, c'est juré. Six mois, un an après, il y aura la même affaire avec d'autres agents pénitentiaires qui vont peut-être pas mourir, mais qui vont être malmenés.
Moi, je crois que vous faites des analyses trop politiques. Moi, je crois simplement qu'il se laisse se développer en France, ce qu'on appelle une mafia, c'est-à-dire on est tout à fait... Alors c'est d'une banalité incroyable quand on parle mafia, ce qui s'est passé là. C'est-à-dire que énormément de fonctionnaires sont corrompus, parce que c'est une des éléments, des paramètres qu'entraîne la mafia. Il y a une organisation avec beaucoup d'argent et donc c'est un truc, ça ne fait rien du tout, 6 000, 10 000, 20 000, 100 000, c'est rien du tout. Il y a une véritable organisation, je crois qu'on est à côté, c'est-à-dire que quand on est en train de parler de délinquance, on n'est pas dans la délinquance, on est dans une organisation mafieuse, et dans cette organisation mafieuse, comme ça a été décrit depuis 1930 aux États-Unis, on a tout quelque chose qui se met en place, qu'on connaît très bien, qui est par exemple les produits de plus en plus dégueulasses, la naissance de mafias qui se battent entre elles, la naissance de corruption systématique de fonctionnaires, etc., etc., qui entraîne, et en fait le fait qu'il soit en prison et qu'il ait ce pouvoir, mais on le retrouve dans 100% des affaires mafieuses. C'est-à-dire, il n'y a pas un mafieux au monde qui, quand il est en prison, arrête de travailler avec l'extérieur. Ça n'existe pas. Donc, je pense qu'on est... Et le fait qu'il ait des téléphones, et ça, c'est parce qu'on lui donne. C'est parce qu'en prison, on lui donne, parce qu'il y a des gens pour lui donner. Donc, on est dans un système, en fait, il faut faire un nettoyage total. Il faut arrêter de raconter des conneries. C'est pas cette espèce de connard qui est un mec surdoué. C'est juste qu'il a du fric et qui paye tout le monde et qu'il a une organisation derrière qui peut payer tout le monde. Donc je pense que donc ça arrive jusqu'à, je pense, ce que personne n'avait prévu, c'est-à-dire la mort de ces deux pauvres garçons qui travaillaient, et je pense que ça va peut-être être un traumatisme pour tout le monde, mais ce qu'il faut empêcher, c'est l'organisation de mafias dans un pays comme la France. On n'est pas en Argentine.
Sauf qu'on est de plus en plus, ça ressemble au Mexique, hein, pardon.
Ah oui, c'est passé. Oui, bien sûr.
Là, mais il faut que le garde des Sceaux, réponde à ces affirmations, cette enquête journalistique. C'est-à-dire que maintenant, on attend du Dupond-Moretti une réponse.
Surtout, en fait, aujourd'hui, pour qui la vie est-elle dure dans les prisons? Pour les personnels du service pénitentiaire. En fait, c'est eux qui triment toute la journée, qui vivent dans des conditions insupportables. Mais finalement, les prisonniers, alors je parle pas évidemment de certains prisonniers qui ont même pas de quoi dormir et qui subissent surtout apparemment le comportement terrifiant de ce genre de personnes, parce qu'en plus, il s'avère, d'après les écoutes qui ont été faites, que ce type est d'une ultra-violence, oui. Même vis-à-vis de son petit personnel, il est menaçant, il menace les familles, oui. Il menace...
un mafieux.
Apparemment, c'est vraiment une crapule sans nom, qui n'a plus aucun filtre et aucun sentiment de base de compassion et d'empathie.
Oui, mais,
donc vraiment, le personnage est un vrai psychopathe en plus.
Il y a quand même une chose, c'est parce que les informations de BFM TV de Stéphane Selami que l'on salue, bravo pour ces informations, nous disent quand même que ce sont des écoutes. D'accord, on a eu accès aux écoutes, ce qui veut donc dire que
il était sur
Mohamed Amra, il était,
c'est ça qui est incompréhensible.
Sur écoute.
Donc s'il est sur écoute, comment on le laisse s'évader? Voilà.
S'il est sur écoute.
Mais parce que c'est pas le même téléphone.
S'il est sur écoute.
Tu mets sur écoute un téléphone, t'en mets pas 36.
Ouais, mais s'il est sur écoute et qu'on s'aperçoit de tout ce qu'il fait, soit on dit au personnel pénitentiaire, dans le cadre de la procédure et de l'enquête, les gars, foutez-lui la paix, parce qu'on veut savoir quelle est l'ampleur de son trafic, avec qui il est en contact, qui sont ses ennemis, quelle est l'ampleur de son gang, puisqu'on dit qu'il a un gang, et auquel cas, les policiers à un moment l'ont raté, puisqu'on n'était pas au courant de la dangerosité. Ou alors, à un moment, ils auraient dû dire stop, on lui enlève tout, on le met à l'isolement, parce que le gars est ultra dangereux. Et on a affaire à une bête terrible qui continue alors qu'il est en prison pour protéger la société.
Surtout,
là, il est en prison et il continue son trafic. Donc il y a un truc qui colle pas là dans l'enquête.
Mais moi, je pense qu'effectivement, là, il y a la question des écoutes, c'est la part d'ombre. On ne sait pas à quoi elles sont servies, pourquoi.
C'est ça.
Mais
ça demande aussi des explications, du garde des Sceaux ou du ministre.
Mais là, je pense que ça aussi, ça fait écho au moment où il y a eu la mort de ces deux gardiens. Il y a eu un rapport qui est tombé pour dire que la France était en train de perdre la bataille contre...
Ce sont des magistrats qui l'ont dit, même. Voilà. Il y a eu le rapport parlementaire.
Et qui disait qu'effectivement, les caïds continuaient leur affaire et que l'État...
Voilà. Donc, c'est une illustration supplémentaire du rapport.
Et le garde des Sceaux s'est dépêché de condamner les propos de ces magistrats à l'époque, n'est-ce pas, en disant « mais des magistrats n'ont pas à s'exprimer ainsi, ce qu'ils racontent, c'est pas exactement la vérité ». Résultat, un mois après, le garde des Sceaux a été obligé de faire machine arrière et de reconnaître que la situation... Non mais aussi, juste une dernière chose, ce qui est intéressant, c'est que si ce type-là, on l'écoutait, etc., alors peut-être que ça valait le coup de faire les auditions en visio, alors, plutôt que de l'extraire pour voir le juge.
Ce qui est marrant, c'est la réponse de Darmanin à la question de la drogue, c'est-à-dire en pilonnant les points de deal, dont on sait que ça n'a aucun effet. D'ailleurs, la drogue, le cannabis n'a pas augmenté d'un centime. Hein. Il n'est pas plus cher parce qu'il y a des points de deal ils continuent de s'en vendre autant. Je connais personne n'arrête de fumer du cannabis. Alors malheureusement, les jeunes n'en fument plus. Ils vont vers des drogues beaucoup plus dangereuses. Mais ça, c'est le problème de Darmanin. Mais faut pas se leurrer. Les mafieux comme ce type-là, s'adapteront aux nouvelles drogues. Hein.
On va aller dans les Vosges. J'en parlais avec Karim qui est commercial. Bonjour Karim.
Bonjour à tous.
Comment vous avez réagi en entendant ces infos là sur Mohamed Amra, alors les écoutes?
J'ai des bouffées de chaleur. Ça me fait bondir. C'est inhumain ce qui se passe. On est en train de parler d'un voyou, d'un gros voyou.
Ah oui, un tueur.
Qui depuis sa cellule arrive à gérer son business comme si de rien n'était. Moi, je voulais rebondir sur quelque chose que j'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment la plus grosse.
Ah, Karim, attention. On vous entend plus, là. Attention, si vous êtes en train de vous déplacer. Essayez de revenir.
Ouais, ouais, là, on vous entend.
Ça va à peu près. Allez-y, Karim. Non, désolé, là, on vous entend pas bien, Karim. On va essayer de vous rappeler et de vous reprendre juste après la pause. Donc, vous avez entendu, Mohamed Amra, ses conditions en détention, la manière dont il continue de mener son business. C'est vrai qu'on attend des réponses maintenant du ministère de la Justice ou du ministère de l'Intérieur, puisque ce sont des écoutes. On essayait de savoir, visiblement, comment se comporter Mohamed Amra.
Bah alors donc on est passé à côté de son projet d'évasion.
Pas le bon téléphone.
Il n'y a pas le bon téléphone.
Peut-être pas le bon téléphone.
Le téléphone pourra sonner, il n'y aura
pas,
mesure,
pas la bonne mesure
comment,
du
mais
gars.
Mais comment on sait Non. Mais comment on sait que et c'était au mois de novembre 2022, hein, donc c'était un petit moment.
6 mois.
Voilà, qu'il cherchait à se procurer des armes. Donc ça, on le sait grâce aux écoutes. Donc il y a des armes de guerre et ce sont les armes similaires à celles qui ont été utilisées par les membres du commando qui l'ont fait évader.
Ça va pas lui prendre deux minutes de se les procurer.
Moi je pense que ça mérite une enquête, une commission d'enquête. Je suis désolé, il faut une enquête au sein de la prison. Il faut que Darmanin et Dupond-Moretti s'expliquent. Peut-être devant une commission d'enquête parlementaire, parce que là, c'est quand même très grave.
Il y a des juges.
Il y a deux agents pénitentiaires qui ont perdu la vie, quand même.
Pour que les téléphones aient été mis sur écoute, c'est qu'il y a eu une instruction judiciaire. Donc, il y a un juge d'instruction, aussi, qui a donné les ordres. Donc, c'est plutôt, parce que monsieur Dupond-Moretti, le juge en question doit expliquer pourquoi il surveillait monsieur Amra et que donc on le laissait papoter en prison et surfer sur Tinder en même temps.
Karim, juste avec nous, avant la pause, Karim. Ça y est, on vous a retrouvé.
Qu'il était sur écoute.
Allez-y. Oui, vous m'entendez bien?
Ça y est, c'est bon, allez-y.
Oui, donc, je vous disais tout à l'heure, moi, j'ai une grosse pensée, en fait, c'est pour les surveillants pénitentiaires. En fait, moi, ce que je réalise, c'est qu'en fait, c'est les surveillants pénitentiaires qui sont enfermés et, en fait, les détenus qui ont cette liberté totale d'avoir des téléphones, d'avoir des consoles, d'avoir des accès à des abonnements comme c'est pas permis. Si je me trompe pas, je pense que le budget d'une prison pour une construction, c'est à peu près 300 millions d'euros. À quand est-ce qu'on va faire un Grenelle sur les prisons? Ça fait plus de 20 ans qu'on nous dit qu'il faut construire des prisons. Mais ça rejoint le sujet qu'on avait dernièrement, où je vous avais eu au téléphone, par rapport à la mort du jeune de 15 ans qui a été tué par les deux ados. On se rend compte que tout ça, ça se réunit en fait. S'il y a cette impunité dès le début, qu'est-ce que vous voulez qu'un ado se dise, bon bah il y a un trafiquant, il a une liberté totale, il reçoit de la drogue, il a des téléphones comme c'est pas permis.
Ouais, mais faut pas tout mettre dans le même panier. La vie dans les prisons, de toute façon, elle repose sur une seule chose, c'est le fait que les gens soient sous cacheton. Fait que les gens soient défoncés, parce que sinon personne vit en prison.
Oui, bah,
Karim, je vous remercie d'avoir été avec nous.
Parce que c'est un mafieux.
La discussion
continue. Pour ça que je dis qu'il faut pas tout mettre dans le même lot.
Avec vous au 32-16 dans les GG.
Carrefour Banque et Assurance.
Quand vous me dites, la carte passe, invincible. Et oui, votre carte de crédit passe standard propose de nombreux avantages. Et en plus, profitez de 30 euros offerts en bon d'achat à la suite de sa première utilisation, au comptant ou à crédit. Et c'est jusqu'au 24 juin chez Carrefour Banque et Assurance.
Carrefour Banque et Assurance. Délai légal de rétractation de 14 jours, voire conditions en agence banque ou sur carrefour-banque.fr. Carrefour Banque, RCA Sévry, numéro 313-811-515, numéro Orias 07-031-939.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Quelle heure est-il ? 9h25, les amis, dans 2h précisément, on fait tourner la roue dans les GG, dans les grandes gueules. Et j'espère que vous gagnerez les 20 000 euros. La semaine dernière, dans les grandes gueules, on avait gagné 10 000 euros. Là, j'espère qu'on va monter jusqu'à 20 000. Donc, dès que vous entendez le signal d'alarme, là. Vous savez que vous avez 5 minutes pour vous inscrire, m'envoyer roue par SMS au 732-16 et à 11h20, l'un d'entre vous tiré au sort passe dans les GG. Anaïs Sens, notre productrice, sera là avec la roue. On l'a fait tourner et j'ose espérer que vous aurez les 20 000 euros dans votre poche dans les heures qui suivent. Voilà pour la roue. Donc, dès que vous entendez le signal, roue par SMS au 732-16. On va reparler donc de Mohamed Amra avec les informations qui sont données par le service police-justice de BFM TV, par Stéphane Selmy. Donc, si vous voulez que je vous fasse un résumé rapide, Mohamed Amra en prison, c'est plusieurs téléphones portables, jusqu'à 9, la gestion du trafic de drogue. Il a même dirigé en vidéo, live, une action contre des concurrents. C'est-à-dire qu'en même temps que les gars opéraient, ils disaient « Non, là, ensuite tu vas à tel endroit, tu auras une voiture qui t'attendait ». Ils faisaient ça en simultané, en vidéo. Il a organisé effectivement des enlèvements et des séquestrations. Il cherchait à acheter des armes de guerre, fusils d'assaut à 6 000 euros pièce. il se faisait livrer ses repas 24 heures sur 24 et il avait une petite chicha pour la distribution.
Mais ça veut dire que ça contredit. Mais ça contredit aussi en fait, le portrait qui est dessiné de Mohamed Amra contredit ce qu'on disait au début en disant on comprend pas pourquoi un tel commando pour un type comme cela. On voit quand même que c'était quelqu'un qui était un mafieux, qui avait de l'argent, qui était un chef de clan, qui était capable de commanditer l'enlèvement de personnes, etc., demander des rançons, etc. Donc il avait les moyens, effectivement, d'organiser ce commando, d'acheter les armes. Et donc voilà, c'est une réponse. Parce qu'au début, on se dit, mais c'est bizarre qu'un type comme ça. Ça veut dire aussi que finalement, on l'a sous-estimé ou on nous a raconté un peu des pipeaux.
Oui, peut-être plutôt ça.
Oui, d'autant que.
Oui, mais alors, si on nous a raconté du pipeau et qu'on a fait voyager ce mec dans un véhicule, une camionnette avec trois pauvres types et qu'ils se sont fait agresser.
On les a mis en danger.
Là, c'est très, très grave.
Oui, parce qu'on les a mis en danger.
Et c'est marrant parce qu'il y a eu au départ un premier détail qui a surgi. Il était en train de scier les barreaux de sa prison.
C'est pipeau, ça.
Ça avait commencé comme ça. Et on a dit, c'est bizarre.
Je n'y crois pas une seule seconde.
Je ne sais pas pourquoi c'est sorti ce truc-là, puis ça a disparu.
C'est une info d'ailleurs qui n'est plus reprise.
Donc, les magistrats qui sont en charge du suivi de ce personnage, parce que pour que les services pénitentiaires les laissaient avoir tout ça, tu ne vas pas me dire la chicha, le Deliveroo et compagnie, c'est des fonctionnaires corrompus qui ont fait
bien
ça. C'est, ils ont eu l'ordre, peut-être, d'un juge en leur disant laissez-le Amra, on le surveille. Donc, si c'est une hypothèse, vraiment, parce que les magistrats ne rendent jamais de compte.
L'évasion, alors.
Les magistrats ne rendent jamais de compte sur les ratés qui peuvent exister dans le suivi d'une affaire. Et je peux comprendre, ils ont peut-être 50 dossiers. Peut-être que le juge d'instruction, il en a 10 ou 15 ou 20 des Amra à surveiller. Non. Mais moi, je suis désolée. Il y a peut-être eu une faille et il va falloir qu'à un moment donné, le magistrat en charge s'explique.
La dernière fois qu'il y a eu une agression violente de ce type-là, c'était en 1992. Il y en a plus depuis. Mais ce que je te dis, c'est que c'est quand même pas une affaire courante. C'est une affaire exceptionnelle. Et c'est une affaire d'une gravité exceptionnelle. Et moi, je pense très sincèrement que peut-être les magistrats ont une responsabilité. Mais je pense très sincèrement que c'est parce que quand on a du blé, quand on a beaucoup de pognon, on peut acheter absolument tout le monde à l'intérieur et à l'extérieur.
Donc on peut se faire livrer 24 heures
sur 24
des repas.
Et on peut se faire livrer 24 sur 24. On peut avoir des téléphones, on peut avoir des entretiens avec des avocats marrons, on peut avoir des tas de choses comme ça. Faut arrêter de raconter n'importe quoi.
Mais la sœur qui se fait passer, la petite amie qui se fait passer pour la sœur au parloir, ça ne voit qu'une carte d'identité.
Mais pour aller dans ton sens, donc le repas arrive.
C'est une passoire.
Donc un surveillant prend la pizza. Sonne
Deliveroo
à la porte de Amra et dit
Monsieur
la pizza.
Amra, c'est pour vous.
C'est la pizza.
Oui.
Est-ce qu'il y avait
c'est
celui-là en sauce
fromage, c'est bien pour vous parce que j'en ai une dizaine. Là, je voudrais savoir pour la
est-ce
répartition.
Est-ce que je laisse un pourboire au livreur
Est-ce que je laisse un pourboire Est-ce que sauce piquante ou pas Est-ce qu'il y a une boisson avec Et ensuite.
C'est pour ça qu'il faut pas. C'est pour ça qu'il faut faire attention de pas mélanger tout et qu'il faut bien se considérer que cette affaire est tout à fait gravissime et exceptionnel et que des situations comme celle-là
certainement
c'est pas
l'évasion est exceptionnelle
mais les conditions de vie de Amra pas exceptionnel
c'est pas tout le monde qui a des mafieux
les surveille comme ça il joue quoi il joue les caïds dans la prison les petits les regardent ça veut dire que le petit qui vient d'arriver qui a 19 ans il le regarde lui faire il se dit oh la vache le modèle
Barbara je te signale que 95% des films entre 1960 et 1980 étaient des films qui valorisaient ce genre de trucs, qui valorisaient les gars qui étaient de la mafia, qui avaient des téléphones en prison ou qui s'évadaient, ou qui se faisaient.
Même
avec les films de Belmondo, je veux dire, la starification des grands gangsters mafieux, c'est pas une chose nouvelle.
Regarde tous les gamins de banlieue qui se baladent avec Scarface, avec la tête de Al Pacino en Scarface.
Nabil est avec nous, il nous appelle de Gironde. Bonjour Nabil.
C'est modèle.
Bonjour à tous, merci de me recevoir.
Ancien militaire, Nabil, votre fils est en prison.
Exactement. Mon fils est incarcéré, il a une vingtaine d'années, depuis à peu près 2 ans, depuis sa majorité, pour petit trafic de stupéfiants. Petit trafic, alors, je ne sais pas si on peut dire petit ou gros, mais bon, en tout cas, trafic de stupéfiants, point de deal, une fois, deux fois. Et moi, j'aimerais intervenir simplement dans votre émission pour vous dire que la fiction a largement dépassé la réalité dans les centres pénitentiaires. Arrêtons de croire au bisounours. C'est-à-dire que c'est pas le monde du bisounours. Tout à l'heure, je vous entendais parler de corruption, corruption, corruption. Aujourd'hui, les gros détenus, les gros voyous qui sont en prison n'hésitent pas à faire suivre les agents de leur...
Oui, c'est ça. Et ils sont menacés.
Ah, mais bien sûr que oui, mais bien sûr que oui. Ils n'habitent pas 600 kilomètres. Un gros voyou qui a les moyens et qui a sa petite équipe de mafieux, hein, il faut dire les choses comme elles sont, hein, va pas hésiter à faire suivre un gardien de prison, à prendre des photos, à lui montrer en lui disant on sait où t'habites et patati. C'est la même chose. C'est la même chose pour les nouveaux détenus. Quand ils arrivent en prison, ils n'ont pas de quoi cantiner. Ce qu'on appelle la cantine, c'est pour acheter du shampoing ou autre. Vous avez les gros voyous et les petits malins qui sont là depuis pas mal de temps, qui connaissent le circuit, qui vont aller leur dire bon ben voilà, on va te donner un paquet de cigarettes par exemple pour te dépanner, tu nous rembourses. Le paquet de cigarettes en prison coûte 50 euros.
C'est ça.
Et puis c'est un effet. Et ensuite, une fois ben, qu'ils ont des dettes de 300, 400, 500 euros, ces petits jeunes, je vous en parle en connaissance de cause, hein, ben, ils se retrouvent dans un engrenage verrouillé, coincé, et même à la sortie de prison pour pouvoir rembourser des dettes qu'ils ont eues en prison.
Exact.
C'est un écosystème, c'est vraiment un écosystème. La réalité dépasse vraiment la fiction.
Oui,
voilà.
C'est un monde à part.
Ça veut dire que, Nabil, ça veut dire que... votre fils qui est incarcéré, vous pouvez, on parvient à lui faire passer des choses, vous pouvez arriver à lui faire passer des choses.
Alors moi c'est pas compliqué, vous savez, je ne lui fais passer rien du tout puisque je ne veux pas le voir.
D'accord.
Voilà. Okay. Voilà, comme ça c'est clair.
Vous êtes en rupture avec lui?
Ah, je suis complètement en rupture. Il m'appelle de temps en temps, j'essaie de le motiver ou quoi que ce soit quand il peut m'appeler.
Il a quel âge?
Il a 21 ans.
Il est jeune. Il a fait quoi?
Ah oui,
sans trop d'inscrits. Trafic de drogue.
Et oui, point de deal, une fois, deux fois, trois fois, quoi. Voilà.
Et vous pensez que ça va lui servir de leçon, enfin qu'il va essayer.
Jamais de la vie. Si vous regardez les réseaux sociaux, TikTok et compagnie, ils arrivent à se filmer en train de faire du sport, en train de fumer des chichas, en train de s'éclater.
Il vit pas ça comme un enfer, quoi.
Si, parce qu'il ne peut pas sortir, bien évidemment.
Il y a
une
privation de liberté, oui.
Il y a la privation de liberté, mais derrière, qu'est-ce qu'ils apprennent?
Et est-ce que votre fils, il prend des antidépresseurs ou des trucs comme ça, ou est-ce que c'est juste le cannabis, ou est-ce qu'il prend des trucs?
C'est juste le cannabis.
Il est dans un processus de réinsertion, une formation, une...
Même pas.
On ne prépare pas spécialement la sortie.
Alors attendez, parce que Nabil, j'ai un surveillant de prison qui vient d'arriver.
Merci Nabil.
Qui est au 32-16 avec nous. Bonjour, oui. Corentin.
Oui, bonjour.
Comment avez-vous réagi en entendant les conditions de détention de Mohamed Amra?
En fait, moi j'en ai un peu ras-le-bol depuis la mort de mes collègues. Qu'on parle de conditions de détention plutôt que de parler des conditions de travail, en fait.
C'est-à-dire?
Non, mais bien sûr. Mais justement,
les deux sont liés. Oui, j'ai bien l'impression qu'en fait, les deux vont ensemble, mais on met le comment? On met la lumière que sur une chose, quoi, en fait.
On dit justement que les conditions...
On est scandalisé parce qu'il s'est passé pour Mohamed Amra.
Ces conditions de détention révèlent vos conditions de travail lamentables.
Ce serait bien de le dire un peu plus.
C'est ce qu'on a dit.
Corentin, on voudrait savoir quelle est la part de corruption qui peut exister dans votre profession, et puis aussi la part de menace. C'est-à-dire qu'on a bien compris qu'il y avait une pression aussi sur les agents pénitentiaires, des menaces peut-être sur eux, pour leur famille... racontez-nous.
Sur la partie corruption, faut pas cacher qu'il y en a. Après, faut pas non plus faire une généralité.
Bien sûr.
De dire que tous les surveillants sont corrompus, c'est faux. Il y en a, ça existe, comme partout, comme vous avez Barbara Lefebvre, je pense, comme dans l'éducation nationale.
Comme dans la police, mais elle n'est pas corrompue, Barbara.
À l'éducation nationale, vous savez, on nous glisse rarement des petits billets. Pourquoi?
Voilà, il doit y en avoir.
Corentin, je voudrais comprendre. Comment se fait-il que Mohamed Amra ait pu bénéficier de tout ça, ait pu continuer de mener son business dans sa cellule? Est-ce qu'à votre avis,
c'est ça.
Les policiers l'avaient mis sous surveillance et avaient donné des consignes en disant « on l'écoute, laissez-le faire » ou est-ce qu'il a vraiment berné tout le monde alors ?
Alors non, enfin déjà c'est pas forcément voir je suis pas d'accord du tout pour dire que c'est les surveillants qui laissent faire, c'est par exemple quand vous arrivez le matin pour prendre votre appel. Alors c'est un exemple hein, les chiffres sont peut-être pas bons mais l'exemple est bon. Vous devez avoir 50 surveillants pour faire tourner votre établissement, vous arrivez à l'appel, vous êtes à -15 agents. Ben vous allez m'expliquer comment vous faites pour faire toutes les tâches de la journée. Donc il y a des choses dont vous êtes...
Je vous repose ma question différemment. Est-ce que de temps en temps, on vous dit, vous avez des consignes en vous disant fermez les yeux sur ce détenu parce que la police mène son enquête, il est écouté et autres. Est-ce que ça peut arriver ça dans le cadre d'une procédure judiciaire ?
Alors les consignes, on les a pas forcément directement. Mais moi je sais, parce que je parle d'expérience, hein, j'ai déjà eu le cas... trouver un téléphone portable dans la cellule et le chef de bâtiment me dit tu vas le remettre parce qu'il est sur écoute.
D'accord.
Ben moi j'ai dit il est hors de question que je remette un téléphone portable dans une cellule parce que j'ai ma conscience professionnelle, j'ai mon professionnalisme, etc.
Précisément, vous avez une conscience professionnelle, mais je sais parce que je travaille aussi en prison que parfois. Quand par exemple il y a 6 téléphones portables dans une cellule, comme c'était le cas chez ce gars-là, il y a un laisser-aller de la part des professionnels. Et effectivement, c'est pas toujours de la corruption.
La retour,
hein.
Merci à Corentin, le surveillant pénitentiaire, de nous avoir donné des indications. Vous entendez, c'est le signal d'alarme. Je rappelle, c'est dans les grandes gueules tout à l'heure. On fait tourner la roue. Potentiellement, vous pouvez gagner 20 000 euros. Les gains vont de 100 euros. Jusqu'à 20 000 euros. 10 000 euros gagnés la semaine dernière dans les GG, dans les grandes gueules. Donc il est temps, vous avez 5 minutes hein, pour m'envoyer roue par SMS au 732-16. 5 minutes pour envoyer roue par SMS au 732-16. R-O-U-E. À vous de jouer, à vous de gagner et de passer en direct et tenter votre chance tout à l'heure à 11h20. Donc je vous laisse faire, les amis. On a posé la question à propos de Mohamed Amra, justement sur ses conditions de détention. Là, on a quand même. On est choqués tous, là on est face à un scandale. Les conditions scandaleuses, est-ce qu'il y a du laxisme ? Bon, oui, 95,6%
c'est stalinien.
95,6% des autorités. Le résultat, la question est posée
Poutine
comme ça.
Poutine aurait aimé avoir ce résultat.
Après, Staline. Il l'a eu d'ailleurs. On verra, parce que là maintenant, on a quand même envie de savoir quel est le scénario autour de ces écoutes de Mohamed Amra. C'est ça qu'on aimerait savoir. Allez, dans un instant, là, on s'en fout pas.
La nouvelle Suzuki Swift Hybrid. C'est un design inspirant, une technologie de pointe et une conduite exaltante à partir de 199 euros par mois. Nouvelle Suzuki Swift Hybrid. Place à l'exaltation.
Portes ouvertes ce week-end. Swift Hybrid Avantage, location longue durée 37 mois, 30 000 km, premier loyer de 4 000 euros. Entretien inclus, valable jusqu'au 30 juin 2024. Si accord Arval Service Lease. Détails sur Suzuki.fr.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Parti, Vincent César. Les GG, les grandes gueules sur RMC et RMC Story, les grandes gueules avec Frédéric Farah, Étienne Nibig et Barbara Lefebvre. Juste après le on s'en fout, on s'en fout pas, on évoquera, on parlera de Madame Hidalgo. Je vous conseille de rester à l'écoute pour écouter Madame Hidalgo, s'en prendre aux peines à jouir, à tous ceux qui n'arrivent pas à se réjouir des Jeux Olympiques. Est-ce qu'elle a raison? Quand on ne se réjouit pas des JO, on est à peine à jouir. Ce sera tout à l'heure à 10h. Quelle classe.
J'adore la classe.
C'est super.
Allez, en attendant, c'est long, on s'en fout, on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
Bonjour Anaïs Sainz.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Le duel va donc bien avoir lieu. Le grand débat entre Gabriel Attal et Jordan Bardella. Mauvaise musique. C'est ce soir...
Si.
Non, c'était pas celle-ci.
Oh,
c'est ce
aussi,
soir
ça,
en prime time sur France 2, une confrontation très attendue, un peu plus de 2 semaines hein, des élections européennes. C'est un peu plus adapté, ça quand même.
Pas mal.
Bon, est-ce qu'on
c'est original. On l'a fait jamais quand il y a.
On l'a fait hier en plus.
Eye of Tiger.
Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Barbara?
Non, on s'en fout pas.
Frédéric.
Non, on s'en fout pas.
Étienne.
Moi, je m'en tape grave.
Ah bon? C'est vrai. Bardella, tête de Listeren, grand favori dans les sondages face au Premier ministre Gabriel Attal, qui ne voulait pas participer à ce débat avant de s'y contraindre. Hein. Duel qui fait effectivement office de dernier joker pour la Macronie. Et sa tête de liste, Valérie, est yée dans l'impasse dans toutes les enquêtes d'opinion. Pourquoi on s'en fout pas, Barbara?
On s'en fout pas parce que effectivement ça va être assez décisif, mais moi ce qui me chagrine un petit peu, c'est que ça va pas être décisif sur le fond, on le sait. Ça va être décisif sur la personnalité, sur la punchline, sur l'attitude. Et en fait, on sait très bien qu'à la fois les analystes politiques, les journalistes et tout, nous tous les commentateurs, on va d'abord regarder quelle personnalité a été la plus forte, laquelle a été la plus punchy, et on va pas s'intéresser au fond. D'autant plus que j'espère personnellement que le fond ne va pas consister en des attaques qu'on entend toujours et toujours les mêmes, et vous n'étiez pas là, et vous avez pas signé ci, et vous avez pas voté ça, et Jean-Marie Le Pen ceci, et l'autre il va lui dire oui, mais Monsieur Macron n'a rien fait. J'espère qu'on va vraiment aller dans le fond des dossiers.
Sur l'Europe, une vision européenne.
Et qu'on va avoir vraiment deux personnes qui ont une vision
sur l'Europe.
S'affronter sur l'Europe, mais non, aussi sur la France, parce qu'il faut pas se mentir, c'est le Premier ministre, et que l'Europe va être en deuxième plan.
Oui, parce
mais
que au Gabriel moins, Attal n'est pas candidat aux européennes.
On voudrait un combat des idées. On voudrait un combat des idées et pas juste un combat de personnalité.
Moi, je pense que là, on a droit
qui
à.
Qui va gagner un pronostic quand même, Barbara.
Bon, Bardella, pour moi.
Bardella, bon, à mon avis, il va gagner.
Ah oui, c'est Bardella. Le débat.
Oui, mais ce que je veux dire là-dessus, c'est que c'est le énième épisode de Il faut sauver le soldat Ryan. Alors, le soldat Ryan, c'est Valérie Ayé. Donc, Macron, il a parlé à la Sorbonne. Échec. Maintenant, on espère que, je sais pas quoi, abracadabra, Attal va renverser Bardella et hop, 3 points dans les sondages de plus pour elle. J'y crois pas 5 minutes. Dans le fond, en fait, les questions européennes ne seront jamais évoquées puisqu'en fait, on voit dans cette affaire que toute la campagne européenne est passée son temps à être nationalisée. C'est-à-dire, on ne parle que de questions nationales. Et en fait, ça va être un débat national. Les européennes vont passer au 14e plan.
Donc, oui, mais je vous trouve sévère, c'est quand même un jeune de 28 ans face à un autre de 35 ans. Moi, je trouve quand même que ça, c'est rafraîchissant de voir que la classe politique se renouvelle. Ici, souvent, et je me souviens au début des Grandes Gueules, on se plaignait, on a commencé les Grandes Gueules, c'était Jacques Chirac, on avait toujours les mêmes, on avait des présidents qui passaient leur vie à se battre pour être président, qui arrivaient cramés au pouvoir. Là, on a des jeunes qui sont brillants, qui sont prometteurs, qui ont l'avenir devant eux. Moi, je trouve ça bien. Excusez-moi, je préfère le spectacle qu'on donne en France que celui qui est donné aux États-Unis entre Biden et Donald Trump.
Le doyen des candidats aux européennes, il a 44 ans, c'est Glucksmann. Donc non, c'est très bien.
Non, mais
maintenant, ce qu'on veut, justement, c'est une nouvelle génération, mais qui renouvelle les idées aussi.
Je suis d'accord.
Pas juste qui renouvelle les éléments de langage.
Voilà, ça, sinon,
c'est pas seulement des communicants.
Voilà. Sinon, c'est des jeunes vieux.
Voilà,
on enchaîne.
Qui va gagner?
Sinon, c'est Macron.
Tu mises sur qui?
Match nul, moi, je pense.
Oh là là, je pense que Attal, il va.
C'est Bardella qui va gagner.
Non, je pense qu'ils vont.
C'est Attal qui est. Bardella qui
est. Attal, ils vont se neutraliser.
Il va écrabouiller Bardella.
Ils vont se neutraliser.
Intellectuellement,
c'est l'intérêt, finalement, des deux que ça se neutralise.
Les GG.
On enchaîne.
Le livre de Frédéric Farah, No Frexit, ce que pensent les jeunes de l'Europe, paru la semaine dernière aux éditions.
Merci beaucoup.
Fayard.
On s'en fout.
Moi-même. Tout le monde s'en fout.
Bon, parle-nous un petit peu de ton ouvrage, Frédéric.
Alors, j'en parle, évidemment. Alors, j'ai décidé, alors, j'avais déjà écrit sur l'Europe, mais de manière plus générale. Donc, je me suis dit, puisque je vois des élèves, des étudiants, dans mon quotidien, puisque je vois des gens en prépa, je vois des gens en lycée, je vois des gens en fac, je me suis dit, autant leur poser la question directement, parce que j'ai eu l'impression aussi qu'on s'en foutait un peu des jeunes. Je me suis dit, puisque je peux en interroger plus de 400, allons les voir et posons-leur des questions sur l'Europe et qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils en connaissent. Et je me suis dit, allons voir directement sur le terrain, directement, alors sans prétention de faire de la sociologie et des enquêtes très vastes. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'au départ, j'étais convaincu que des élèves que je vois dans le 93 allaient trouver que l'Europe, c'était épouvantable, et ceux que je voyais dans le 5e allaient trouver que l'Europe, c'était merveilleux. Bon, c'est pas ça ce que j'ai vu. Je crois que dans la plupart des jeunes que j'ai interrogés, c'était ça qui est intéressant. L'Europe comme valeur, comme idée politique, c'est pas trop leur truc. Hein. Au contraire, ils veulent que l'Europe leur donne des choses concrètes, c'est-à-dire la possibilité d'avoir un boulot, la possibilité de voyager, et que l'Europe n'a de sens pour eux que lorsqu'elle est perceptible immédiatement, c'est-à-dire on peut voyager, il n'y a pas de papier, on a la même monnaie ou autre. Donc j'ai vu une jeunesse pas très politisée sur ces questions, et en même temps très attachée à la France, encore plus qu'à l'Europe, et particulièrement dans la banlieue parisienne où j'ai interrogé ces jeunes. Donc j'ai trouvé ça intéressant parce que...
Et au final, alors ces jeunes, ils sont encore européens ou pas?
Ces jeunes, comment dire, sont pas dans le rejet de l'Europe, sont pas dans l'enthousiasme d'Europe. Ils ont grandi avec, ils font avec, mais c'est pas non plus la folle passion.
Oui, il faut leur réinventer pas la folle l'Europe. Passion.
Non, il faut leur réinventer l'Europe.
Erasmus, ça suffit pas.
Et ça suffit pas. Et je crois qu'ils sont nés avec l'euro, donc ils vivent avec.
Ils sont européens.
Mais GG, le chantage à la grève a fonctionné. Au lendemain de la grève massive des cheminots en Île-de-France, la SNCF a proposé au personnel une prime de 95 euros par jour. Voilà, là, c'est plus adapté.
Pas mal.
Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Barbara?
Non, on s'en fout pas.
Étienne?
Non, on s'en fout pas.
Frédéric?
Non, on s'en fout pas.
95 euros par jour, soit jusqu'à 1900 euros sur les 20 jours de compétition des Jeux Olympiques. Bien sûr, une prime semblable à celle obtenue par les policiers et les gendarmes. Barbara, pourquoi on ne s'en fout pas?
Ben, on ne s'en fout pas parce que c'est Monsieur Darmanin qui a commencé. Qui c'est qui a commencé? Ben, c'est Darmanin. Donc, il a donné 1900 euros aux policiers. Plus. Et je suis navrée. C'est de bonne guerre que tout le monde réclame ces 1900 euros. Les pompiers, les médecins, les infirmières, les...
Donc, merci Darmanin, alors.
Eh ben, et moi, je dis, c'est...
Grande gueule.
Et en plus, rappelons quand même une chose. Ce n'est pas une hausse de salaire, c'est une prime sur 2 mois, dans des circonstances exceptionnelles, pour des conditions de travail particulières. Donc, calmons-nous, d'accord? C'est que pour 2 mois. Et je suis désolée, Monsieur Darmanin a lâché les 1900 balles en 2 secondes. Il n'y avait pas de raison que les autres ne s'engouffrent pas là-dedans. Exactement. Et ils ont eu raison. C'est tout.
Mais en plus, bravo! Parce que autant la police a des syndicats d'une puissance effroyable
et effroyable.
C'est-à-dire tous les policiers, sont syndiqués. Effectivement, ça représente tant mieux pour eux. Ils ont raison et ça représente une
force. Les cheminots sont pas du tout syndiqués.
Pas du tout, mais il y a énormément. C'est beaucoup moins puissant. Il y a aucun syndicat. Ah non, il y a aucun syndicat en France.
C'est co-géré par les syndicats.
Il y a aucun syndicat en France qui est aussi puissant que le syndicat des policiers. D'ailleurs, je rappelle que si vous il y a le moindre affaire en France, BFM ou est bien placé pour le dire, s'il y a la moindre petite affaire, c'est toujours un syndicaliste que vous allez recevoir.
Et ouais, ça, mais les policiers
ont
non, 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 Étienne, pardon. Non. Mais là, mais tu viens de dire une connerie.
Non, mais si. Bah, écoute,
pourquoi
souvent.
Non, tu sais pourquoi? Parce que les policiers n'ont pas le droit de parler.
Mais oui, c'est
des fonctionnaires, ils ont un devoir de réserve.
N'empêche que
c'est pas parce qu'ils sont fonctionnaires. Nous, les profs, on a quand même
un devoir de réserve comme un magistrat.
Ok, il n'empêche que la parole des policiers, c'est toujours la parole syndicale.
Oui, parce qu'il
y a des policiers qui ne pensent peut-être pas comme ça, mais en tout cas, ce que je peux te dire, je trouve qu'ils ont bien fait, ils ont raison, et j'aimerais que toutes les professions arrivent à le faire. Mais bon, ça, on n'y arrivera pas. Mais il y a des tas de professions comme la mienne, par exemple, où c'est même pas la peine d'exiger. Or, on sait qu'on va avoir beaucoup de travail. Je signale que c'est déjà prévu, par exemple, que la prostitution des mineurs soit multipliée par 7 ou 8 pendant la période des JO. On nous a demandé de faire un travail très spécifique avec les jeunes filles à ce moment-là, et notamment des jeunes filles qui montent de province pour la prostitution à Paris. Personne va toucher un centime dans ma profession. Excuse-moi.
Je te le dis.
Parce qu'on n'a pas de syndicat.
Mais tu sais que dans le privé, personne.
Non, mais je dis pas le contraire.
Personne n'a les moyens de faire pression comme un cheminot.
Je ne dis pas le contraire.
Moi, je trouve ça très bien. Je suis ravi de cette nouvelle. Je m'en réjouis. Et comme tu l'as dit.
On est sûr qu'il n'y aura pas de grève.
Moi, ce que j'aurais
dit. Darmanin a ouvert le bal. Le bal continue. Et c'est une période exceptionnelle. Donc, moi, je trouve que c'est très bien. Et période de pouvoir d'achat, période d'inflation. Moi, je soutiens. Je dis bravo dès demain.
Mais moi, ce que j'aurais aimé, c'est que tous les petits personnels dans les TGV, etc., qui sont dans les entreprises sous-traitantes, eux, ils n'auront rien. C'est-à-dire que les hommes et les femmes de ménage qui vont nettoyer, eux, ils n'auront pas
ils
de prime.
Ils n'ont pas fait grève pour eux?
Non, mais parce que c'est des entreprises privées. Et c'est ça qui est dommage.
Alors,
voilà.
Justement, parce qu'effectivement, il faut le préciser, par exemple, à la RATP, la prime va être pour les roulants.
Ben oui.
Parce qu'on a regardé, on a ciblé sur ceux qui avaient le plus fort potentiel de nuisance ou de grève, si tu veux. J'ai enlevé nuisance. Genre de conflit ou de grève. Et donc, la prime a été accordée aux roulants dont on a vraiment besoin.
Les services de propreté dans le TGV qui sont avec une étiquette là, d'une société sous-traitante, ils auront pas de prime.
Oui, ils ont un grand cœur.
Ils l'ont fait pour des services de nettoyage.
C'est pas eux, c'est à l'entreprise de nettoyage qui se fait des machins en or de payer mieux son personnel.
Alors là, c'est des esclavagistes.
C'est pour ça que je le dis. Ben oui, rappelle-toi la dame pipi qui s'est fait virer par l'entreprise néerlandaise. Qu'elle avait pris 50 centimes.
Sauf que c'est celui qui fait l'appel d'offres qui veut le prix le plus bas. Donc si tu veux, là en l'occurrence, c'est la SNCF.
Ça s'appelle le dumping social.
Et si tu veux, il y a beaucoup de grandes entreprises publiques qui sont là à dire on veut les prix les plus bas.
Oui, mais pourquoi on tire au plus bas? Parce qu'il faut offrir des primes généreuses
bien sûr.
Et des
comptes.
J'étais sûr que j'allais dire ça. J'étais sûr que t'allais dire ça.
Et le contournement et contournement de la réforme des retraites. Puisque les cheminots ont une réforme des retraites à la carte.
Dans un instant.
J'étais sûr.
Le Éric Ciotti de
Frédéric, Étienne.
Face à la Sophie
Barbara. Dans un instant, avec les grandes gueules. Madame Anne Hidalgo, ras-le-bol des peines à jouir. Allez, à tout de suite avec les grandes gueules au fond de la scène.
Elle chante ça.
Ah, ça c'est
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules.